France Inter.
Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1957, Albert Camus, le prix Nobel et la guerre d'Algérie. Le 10 décembre 1957 à Stockholm, Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Un honneur pour ce fils de pieds noirs pauvre et analphabète d'Alger, devenu un des auteurs français les plus lus, les plus estimés. Dans le discours qu'il prononce ce jour-là, Albert Camus affirme avec force que le rôle de l'écrivain est de se mettre au service de la vérité et de la liberté. Un engagement difficile qui a déjà amené Camus à s'aliéner une partie de la gauche en refusant de mentir sur l'Union soviétique. Mais en 1957, l'écrivain est confronté à une autre actualité brûlante, la guerre d'Algérie. Lui qui a toujours dénoncé l'injustice et la violence de la colonisation est déchiré intimement entre son désir de justice, son attachement à sa terre natale et sa condamnation du terrorisme aveugle sur les civils. Et lorsqu'à Stockholm, un étudiant algérien l'interpelle et l'exhorte de prendre parti pour le camp de l'indépendance, celui, dit-il, de la justice, Camus répond par des mots devenus célèbres, mais souvent récupérés et déformés par ses détracteurs : « Si c'est cela votre justice, je lui préfère ma mère. »
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Martine Mathieu Job, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature francophone émérite à l'université Bordeaux-Montaigne. Vos travaux sont consacrés aux littératures coloniales et post-coloniales, notamment de l'océan Indien et du Maghreb, c'est bien cela ?
C'est ça.
Vous avez beaucoup écrit sur Albert Camus et vous êtes d'ailleurs membre de la Société des études camusiennes. L'histoire que je vais raconter ce soir commence justement en 1957. Albert Camus est né en 1913 à Alger, à Belcourt, un quartier populaire d'Alger. Son père est mort, il n'a pas connu, il est mort à la guerre de 14. Il est élevé par sa mère, une femme très aimante mais aussi pauvre et analphabète. En 1957, il n'a que deux ans et demi.
À vivre, ah oui,
oui, c'est fou. À ce moment-là, c'est un écrivain consacré, prometteur, connu, extrêmement connu.
Oui, oui, très connu et dont on attend toujours les prises de parole. Tant pour, justement, qu'il encourage dans le sens des attitudes politiques ou des options politiques, ou au contraire, pour l'attendre au tournant, parce qu'on sait qu'il ne biaise pas. Donc, c'est un homme qui, à la fois, a déjà une reconnaissance littéraire et aussi une grande reconnaissance dans son métier de journaliste. Lorsqu'il est invité, par exemple, aux États-Unis la première fois, c'est autant le journaliste qu'on célèbre que l'écrivain. Donc sa position est extrêmement forte, puissante, c'est vraiment un de ces intellectuels dont on attend toujours les propos.
Il a commencé à écrire relativement jeune,
très jeune.
Journaliste dans les années 30.
Oui, à partir de 1938, lorsqu'il en fait sa profession, appelé par Pascal Pia à la création de l'Alger républicain.
Ouais. En 1939, il écrit cette série d'articles qui va marquer l'histoire.
Ouais.
Donc pour Alger républicain, Misère de la Kabylie.
Oui, une série de reportages qu'il a effectués effectivement en Kabylie. Une quinzaine de reportages qu'il envoie et qui sont publiés justement par épisode et qui décrit avec, sans misérabilisme et sans sentimentalisme, mais avec des chiffres, avec des faits et des demandes, des propositions qui sont concrètes et qui, effectivement, dénonce l'incurie de l'administration coloniale, la misère extrême de cette région.
En 1945, il va aussi écrire sur les manifestations du 8 mai 1945 à Sétif, enfin, les massacres.
Il écrit sur les manifestations et la répression qui, très très violente qui s'en est suivie, de même qu'il écrira sur la répression de 1947 à Madagascar. Donc il ne se dérobe pas à ce devoir de vérité qu'il se fixe comme écrivain, mais Aussi, et surtout peut-être comme journaliste.
Il est très contesté des deux côtés, finalement. Enfin, il essaye d'avoir une espèce de ligne médiane. En janvier 56, il donne par exemple une conférence à Alger où il appelle à une trêve civile, au dialogue entre les communautés, puisque la guerre a commencé un an plus tôt. Il appelle à une solution politique qui reconnaîtrait les droits des Algériens en maintenant des liens avec la France. À l'extérieur de la conférence, Camus est conspué par les pro-Algérie françaises au cri de « à mort ». Camus, il est déjà pris entre deux feux, Camus.
Oui, alors il a déjà beaucoup écrit sur l'Algérie et il est appelé par ses vieux amis, ceux qu'il a connus pendant qu'il était par exemple adhérent au Parti communiste algérien. Donc il a gardé de vieux amis avec lesquels il a cheminé. À la fois sur le plan politique et sur le plan culturel, surtout. Par exemple, Charles Poncet, qui lui demande justement de venir en Algérie prononcer cet appel à la trêve civile, fait partie de ce qu'on appelle les libéraux. C'est un mouvement, un parti qui se veut une sorte de troisième voie entre les ultras qui réclament le maintien coûte que coûte d'une Algérie coloniale et les indépendantistes irréductibles. Et donc Charles Poncet, avec les gens justement de la Fédération des libéraux d'Algérie, pense à Camus. C'est le seul qui, selon eux, est capable de faire entendre une voix qui résonne. Donc c'est dans ces circonstances-là qu'il se rend à Alger pour proposer qu'il y ait, non pas l'arrêt des attentats, mais que ces attentats ne ciblent pas des civils de façon aveugle. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de règle, c'est un peu sa position constante, qu'il y ait une morale au cœur même des actions violentes.
En 1957, la guerre en Algérie va devenir encore plus frontale, radicale. Les attentats à la bombe se multiplient et la pratique de la torture de l'autre côté avec l'arrivée du général Massu qui a reçu les pleins pouvoirs. Martine Mathieu Job, on se retrouve dans une trentaine de minutes pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, 1957, Albert Camus, le prix Nobel et la guerre d'Algérie, un texte de l'écrivain Patrick Péchereau, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire. Réalisation, Sophie Haute-Picon.
Ah, je n'avais pas vu l'heure. Et si je m'attarde encore, Michel va m'attendre. Allez, je file. Déjeuner avec mon cher Gallimard me fera le plus grand bien. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive à rien. Plus d'énergie, plus de jus à l'intérieur, comme si je me desséchais. J'en viens à me demander si j'étais vraiment fait pour être écrivain. Trop de fatigue, trop de questionnements. Et l'Algérie me mine. Il ne se passe pas un jour sans que j'apprenne une mauvaise nouvelle.
Automne 1957. Albert Camus traverse une intense période de doute. La publication de L'homme révolté et sa condamnation par l'Union soviétique lui ont valu le rejet d'une partie de la gauche. Mais surtout, depuis qu'elle a débuté, la guerre d'Algérie le ronge. Charnellement attaché à ce pays où il est né, fils de parents pauvres qui y ont eux-mêmes vu le jour, il se sent profondément algérien. Mais, témoin des injustices que subissent les populations kabyles et arabes, il est déchiré. Il a beau dénoncer le colonialisme, son refus de soutenir le FLN dont il condamne les méthodes lui vaut d'être accusé de tiédeur par ses anciens amis parisiens. Son état d'esprit entame jusqu'à sa confiance dans son écriture.
Albert, quel succès ! 18 mois après sa sortie, la chute continue son ascension.
Oui, j'ai vu ça. J'avoue que ce n'était pas gagné.
Faire monologuer ton unique personnage tout au long du récit et remplacer le soleil algérien qui baignait tes écrits par les brumes d'Amsterdam, il y avait de quoi désorienter tes lecteurs.
Oui, mais l'exil et le royaume marchent moins bien.
Les nouvelles ont toujours moins de succès que les romans, tu le sais. Et n'oublie pas que tu avais écrit l'exil avant la chute. Que nous l'ayons édité après n'y change rien. C'est la chute, ton vrai dernier livre.
Tu as raison. J'ignore ce que j'ai. Ces derniers temps, j'ai l'impression de n'être plus bon à rien. Pour un peu, je me retirerais dans le désert. Remarque, ça ne changerait pas. Je parle dans le désert depuis si longtemps.
Beaucoup envieraient ce désert-là. Tes tirages ne se démontent pas, tes livres sont traduits dans le monde entier. On parle sérieusement de toi à Stockholm.
Le Nobel, Dieu m'en garde.
Dieu, C'est bien toi qui as écrit « La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas ». Oh, tu nous couvres quelque chose. Tiens, donne ton verre, il est vide.
Rien de tel que le Bourgogne pour remettre les idées en place. Sérieusement, tu me vois nobilisé si jeune? Le prix Nobel n'a jamais été donné à un écrivain de mon âge.
Si, et même à un plus jeune. Kipling l'a eu à 42 ans. 2 ans de moins que toi, mon cher.
En soulignant son jeune âge, Camus cherche-t-il à conjurer ses craintes? Qu'on voit en lui un futur prix Nobel de littérature, l'angoisse. Et si sa consécration marquait la fin de sa carrière? Il confie à plusieurs reprises que ce n'est pas lui qui mérite d'être couronné. De santé chancelante, il est assailli de crises de panique et de claustrophobie. Il va jusqu'à craindre la folie. Il note, toujours dans son journal, que c'est à 20 ans, pauvre et nu, qu'il a connu la gloire. Il devra se faire une raison. Le 17 octobre 1957, la nouvelle tombe, Albert Camus est nobélisé.
Mon chéri, ne fais pas cette tête de Pierrot tombé de la lune. C'est la consécration.
Moi, justement. Elle couronne plutôt des écrivains dont l'œuvre est derrière eux. J'ai l'impression qu'on m'enterre vivant.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu as lu le message de l'ambassadeur de Suède? L'Académie a souhaité mettre à l'honneur un homme de la résistance, un homme révolté qui a su donner un sens à l'absurde et soutenir au fond de l'abîme la nécessité de l'espoir en rendant une place à la création, à l'action, à la noblesse humaine dans ce monde insensé. La création, Albert. L'ambassadeur souligne la création. Ton Nobel est tourné vers le futur.
Est-ce qu'au moins j'arriverai à écrire un futur roman pour te donner raison?
Et ce premier homme que tu as commencé?
Mais je ne parviens pas à l'achever. Il le faudrait pourtant. Je le dois à mon père dont la guerre m'a privé. Je le dois à ma mère que j'aime tant. Je le dois à Monsieur Germain.
Ah, ton instituteur.
Oh, sans lui, je n'aurais jamais pu continuer après le certificat d'études.
Ta mère va être si fière de ton Nobel.
Je lui ai téléphoné tout de suite. Elle qui ne sait pas lire, je lui ai expliqué ce qu'est le Nobel. Elle répétait « Oh mon fils, oh mon fils !» Je la sentais radieuser.
Il faudrait qu'elle vienne.
J'aimerais beaucoup, mais impossible de la convaincre de quitter Alger, même en ce moment où les bombes éclatent dans les rues.
Les hommes du FLN sont devenus fous.
Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Le terrorisme est un choix réfléchi, politique.
Ce soir, ne pense pas à tout ça. Retourne chez Gallimard. Tout le monde t'attend là-bas. Ça doit être l'effervescence.
Oui, aujourd'hui, ce sera la fête. Mais dès demain, j'aurai des ennemis supplémentaires.
Des jaloux. Qu'est-ce que ça peut faire?
Mais s'il n'y avait qu'eux, je pense à ceux qui m'attendent au tournant parce qu'ils ne me pardonnent pas d'avoir écrit « L'homme révolté ». À ceux qui me reprochent ma défense de la révolte hongroise contre l'URSS. À ceux qui m'accusent de ne pas soutenir l'indépendance algérienne. Et à l'opposé, à ceux qui voient en moi un de ses partisans.
C'est tout?
Non. Il y a aussi ceux qui prétendront que je cherchais les honneurs et que je me suis vendu pour un plat de lentilles. Tu te souviens de Sigodès?
Ton ami d'Alger? Celui avec qui tu allais au match de football?
Oui.
Bien sûr que je m'en souviens.
Il m'a téléphoné chez Gallimard. Il voulait que je prenne position pour le FLN. Mais j'ai refusé. Je lui ai expliqué que je ne soutiendrai jamais la violence aveugle, d'où qu'elle vienne.
Et qu'est-ce qu'il t'a répondu?
Il m'a dit que je me taisais parce que je craignais de ne pas avoir le Nobel.
S'il savait le nombre de fois où tu es intervenu pour obtenir la grâce de militants du FLN condamnés à mort...
Au moins, lui, là-bas, il prend des risques. Mais tous ces beaux parleurs parisiens qui posent bien au chaud sur les banquettes du Flore...
Toi, tu agis. D'autres font des discours. À propos, tu as déjà pensé à celui que tu prononceras à Stockholm?
Le discours attendra un peu. Pour l'heure, c'est à M. Germain que je veux écrire. Cher Monsieur Germain, quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur qu'est le Nobel. Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.
cher monsieur Germain, je vous embrasse de toutes mes forces.
Albert Camus n'oubliera jamais son instituteur de l'école communale du quartier populaire de Bellecour à Alger. Louis Germain, dont Camus fera un personnage de son roman inachevé, Le Premier Homme, est le type même du maître attentif, ouvert et pédagogue, soucieux de dispenser à ses élèves un enseignement empreint des valeurs républicaines. À travers lui, c'est aussi à l'école publique que Camus veut rendre hommage. Mais à l'heure où ses pensées volent vers Alger, son Nobel suscite la polémique à Paris.
Albert ? Albert ?
Où est-il fourré ? Je le croyais dans son bureau.
Ne crie pas si fort, Michel, j'étais à côté.
Te voilà de nouveau renfrogné. Souris, mon vieux, entraîne-toi pour la Suède. À croire que tu aurais vraiment préféré qu'un autre le décroche, ce Nobel.
J'avais dit à Francine qu'on me tomberait dessus. Je ne me suis pas trompé. Tu as lu les journaux ? Kléber Edens dans Paris Presse ? Est-il possible d'écrire langue plus morne et plus morte ? Jacques Laurent, dans Art. Le Nobel couronne une œuvre terminée. Les académiciens prouvent qu'ils considèrent Camus comme fini.
Edens et Laurent sont des écrivains de droite.
Et après ? Est-ce qu'on juge un auteur à ses idées ?
Et quand il les exprime ?
Alors qu'on l'avoue, au moins. Mais non, on botte en touche, comme Rebatté, dans Dimanche matin. Cette récompense, qui échoua le plus souvent à des septuagénaires, n'est nullement prématurée. Dès la peste, on diagnostiquait chez Camus une artériosclérose du style...
Lucien rebattait, mais ce vieux collabo se venge de te devoir la vie, à toi, un résistant. Ton intervention à la Libération lui a évité d'être fusillé. Il ne s'en remet pas. Tu devrais être ravi qu'il t'étrille.
Mais à gauche, c'est à peine mieux. Tiens, un résistant, justement. Roger Stéphane, dans France Observateur. On se demande si Camus n'est pas sur son second versant et si, croyant distinguer un jeune écrivain, l'Académie suédoise ne consacre pas une précoce sclérose.
Il vit d'une vieille querelle qu'il a avec toi.
Et Combat. Mais tu te rends compte, Combat, le journal que je dirigeais dans la Résistance. Eh bien, Alain Bosquet y écrit que les petits pays admirent les parfaits petits penseurs polis. Et ne parlons pas de l'humanité. De tous les côtés, on me fait payer mon refus d'être enrégimenté.
L'indépendance se paie parfois cher.
Mais qu'on critique honnêtement mon travail ne me pose aucun problème. Mais quand on vise mes prises de position et mes origines sociales...
Tout de même.
Tu n'as pas lu ce qu'écrit Bernard Franck ? Il me trouve, je cite... Le style d'un homme du peuple qui, le chapeau encore sur la tête, entre pour la première fois dans un salon. Voilà, l'exemple parfait de l'intellectuel de gauche qui parle du peuple mais n'a que mépris pour lui. Ces gens nous regardent de haut, nous sommes vulgaires. Eh bien, retourne-toi, Franck, que je puisse vulgairement te botter le cul.
Allons.
Au moins, l'article de la Révolution prolétarienne fait chaud au cœur. Les critiques s'escriment à faire d'Albert Camus un pisse-froid solennel que les Suédois auraient choisi parce qu'il serait pontifiant et inoffensif. Certaines de ces bonnes âmes vont jusqu'à dire qu'il a choisi un socialisme facile qui procure des dividendes. Albert Camus est en effet impardonnable, il ne joue pas le jeu des clans. Voilà, ça c'est envoyé.
Tes soutiens sont heureusement plus nombreux que tes amis anarchistes. Et que fais-tu des éloges de Berle, de Clavel, de Guénaud, de Robles, de Martin Dugard, de Char, de Faulkner?
Non, jette plus. Les gerbes de fleurs après les pelletées de terre, on se croirait vraiment à un enterrement.
Tu es incorrigible, Albert. Je renonce à te faire changer d'humeur.
Je te demande pardon. Je sais bien que je devrais me réjouir, mais je ne parviens pas à chasser un méchant sentiment d'accablement et de mélancolie. Il m'étouffe.
L'air suédois te fera le plus grand bien. Il est vif et s'accommode aisément d'un verre d'aquavit.
Alors, en attendant, il faut que je me loue un smoking. Non, je vais avoir l'air d'un pingouin là-dedans.
Ce sera tout à fait adapté. Les îles suédoises comptent de belles colonies de pingouins. Et puis, à ta façon, tu es un drôle d'oiseau.
Drôle d'oiseau à plus d'un titre, Camus ne peut pas voler. Sa santé lui interdit l'avion. C'est en train, accompagné de son épouse, des Gallimard et de Blanche Knopf, son éditrice américaine, qu'il arrive à Stockholm. Réception, cocktail, conférence de presse. Camus reçoit son prix le 10 décembre 1957, après avoir in extremis retrouvé son discours qu'il avait égaré. À la tribune, il dédie son Nobel à son instituteur et parle du rôle de l'écrivain au service de ceux qui subissent l'histoire.
il évoque sa génération qui a vu s'installer le nazisme et s'ouvrir les procès en URSS, qui a été confrontée à la guerre d'Espagne, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'univers concentrationnaire et à la menace de la destruction nucléaire.
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.
Assise près de la famille royale, Francine rayonne. Elle ignore que la tempête va souffler deux jours plus tard, lors d'une conférence à la Maison des étudiants à Stockholm.
Écoutez, le débat avec M. Albert Camus touche à sa fin. On m'a remis trois questions, écrites par vos camarades au fond de la salle. Nous allons les prendre. Elles seront les dernières. Alors, question posée par un étudiant en cinéma. Monsieur Camus, vous affectionnez le théâtre, mais que pensez-vous du 7e art ?
C'est un moyen d'expression important. Je redoute qu'il soit asservi à l'argent d'un côté et à la propagande de l'autre.
Très bien. Une question sur l'objection de conscience. Elle dispose d'un statut en Suède, mais elle n'est toujours pas légale en France. Qu'en pensez-vous ?
J'ai été pacifiste jusqu'en 1940. Je pense que la paix est le plus grand des biens, mais pas jusqu'à la servitude. Cela étant, je respecte profondément les objecteurs de conscience et je souhaite qu'en France, ils aient un statut légal.
Merci. Alors, j'en arrive à la dernière question. Existe-t-il une discrimination entre les étudiants français et arabes à l'université d'Alger?
Non, mais de fait, il y a un numerus clausus qui ne dit pas son nom. Les étudiants arabes étant plus pauvres, ils n'ont pas les moyens de faire des études.
Très bien, merci Monsieur Camus. Il nous reste à vous remercier une fois encore.
Albert Camus !
Je sais que vous voudriez tous interroger notre invité, mais l'heure tourne, nous devons mettre un terme au débat. Merci pour votre compréhension.
Albert Camus, vous signez des pétitions pour les pays de l'Est. Mais depuis 3 ans, vous n'avez rien fait pour l'Algérie.
Excusez-moi, je suis désolé, mais nous devons vraiment...
Je ne peux pas rester sans répondre à cette interpellation.
Jeune homme, je suis partisan d'une Algérie où les deux populations vivraient en paix et dans l'égalité. J'ai dit et écrit qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique. Je l'ai maintes fois répété, mais... La haine de part et d'autre est devenue telle qu'il n'appartient plus à un intellectuel d'intervenir, tant ces déclarations risquent d'aggraver la situation. Vous me reprochez de ne rien faire, vous vous trompez. Je puis vous assurer que certains de vos camarades sont toujours en vie grâce à des actions que j'ai entreprises et dont vous ignorez tout.
Condamnez les oppresseurs, pas les opprimés. Vous les renvoyez dos à dos.
Relisez mes écrits. J'ai toujours lutté contre l'injustice. Avec autant de force, j'ai toujours combattu la terreur sous tous les cieux et d'où qu'elle vienne. Comment ne condamnerais-je pas un terrorisme qui s'exerce aveuglément quand on jette des bombes dans un tramway d'Alger où peut se trouver ma mère?
La justice est de notre côté.
Si c'est là votre justice, je lui préfère ma mère.
Albert Camus voue à sa mère un amour immense. Inquiet de la savoir à Alger où le FLN a intensifié ses attentats, il a répondu spontanément au jeune Algérien qui l'apostrophait. Mais, rapporté par l'envoyé spécial du Monde, la phrase se transforme en onde de choc. Camus n'en prend pas immédiatement la mesure, mais le malaise créé ne se dissipera pas. Il est désormais celui qui fait passer la justice au second plan.
Me voici à nouveau objet d'attaque. J'ai répondu à ce jeune type, d'homme à homme, je lui ai parlé sans détour avec mon cœur parce que son visage n'était pas celui de la haine, mais celui du désespoir et du malheur. Je me sens plus proche de lui que des Français qui parlent de l'Algérie sans la connaître. Mais tout est pipé. On fait de moi ce que je ne suis pas, j'en ai assez. Je ne donnerai plus aucune interview sur l'Algérie, je vais réunir les écrits que je lui ai consacrés depuis bientôt 20 ans, et je m'en tiendrai là. Cela remettra peut-être quelques pendules à l'heure.
Au fil de ses chroniques algériennes, Camus dénonce la misère en Kabylie, les injustices, le colonialisme, l'intransigeance, le terrorisme, la répression aveugle. Hostile à une indépendance qui ne respecterait pas toutes les populations, il envisage la création d'une république algérienne associée à la France dans un cadre fédéral. Mais les massacres, les attentats et la répression ont rendu inaudible la voix des modérés. Et chez les tenants de l'indépendance, le MNA, Mouvement National Arabe, parti historique fondé par Messali Hadj, en qui Camus voyait un interlocuteur ouvert, est peu à peu éliminé. Voyant leurs espoirs anéantis, les amis arabes de Camus finissent par rallier le FLN. Parmi eux, l'écrivain algérien Mouloud Feraoun, qui sera assassiné par l'OAS. Les deux hommes se retrouvent en 1958 à Alger, où Camus est venu voir sa mère.
Ah, Feraoun. Que j'aime ces cafés, leurs terrasses au soleil. Et que le ciel d'Alger est beau.
Ce ciel nous a vu grandir, Camus. Nous l'avons en partage, vous et moi.
Puissions-nous aussi partager la terre ?
Ah, nous aurions pu. Si la France avait appliqué sa devise à tous. Mais ni l'égalité, ni la fraternité ne valent pour nous, les indigènes. Quant à la liberté, n'en parlons pas.
Oh, je n'ai cessé de le dénoncer. Je suis algérien, comme vous.
Ah, nous avons vu le jour sur le même sol. Comme moi, vous avez connu la dureté de la vie. Comme moi, vous êtes né pauvre. Oui, vous êtes algérien, Camus. Mais pas comme moi. Même devant la pauvreté, nous ne sommes pas égaux. Les Français peuvent être pauvres. Ils ne connaîtront jamais la misère des Arabes. À nous refuser l'égalité, Paris a fait de nous des inférieurs. À nous refuser d'être algériens avec la France, comment s'étonner que nous voulions l'être sans elle ?
Notre rêve d'une Algérie partagée, fraternelle, s'achève donc ?
Le temps du rêve a passé. Que voulez-vous que je vous dise ? Je le regrette, oui, je le regrette. Mais trop de haine, trop de douleur ne laisse pas d'autre issue que l'indépendance. Elle est devenue l'espoir de millions d'Algériens.
J'aimerais au moins que les massacres que nous condamnons, vous et moi, soient dénoncés avec la même force, quels que soient leurs auteurs. Les indignations sont hélas bien sélectives.
Je le déplore comme vous. Et tout autant, je déplore que les exactions de l'armée française ne soient pas dénoncées par les Français d'ici. Trop de sang coule, mais c'est bien la France qui nous a conduits là. Mais
voyez-vous, Feraoun, ce ne sont pas seulement les méthodes du FLN que je refuse. En assimilant tous les Français d'Algérie à des colons et des exploiteurs, ils ne préparent rien d'autre que leur départ.
L'indépendance acquise, il sera obligé de faire la différence. Les Français comme vous et votre famille auront toujours leur place ici.
Pourquoi pensez-vous que le FLN agira différemment demain ? Les bombes qu'ils jettent dans les autobus ou les cafés ne trient pas leurs victimes. 80% des Français d'Algérie sont des gens du peuple. Ils y ont fait souche, poussés par la misère ou l'exil. Ils sont parfois les descendants des communards poursuivis, comme d'autres ont fui le franquisme ou descendent des Juifs chassés d'Espagne par Isabelle la Catholique. Mais ne croyez pas que ce soit mon seul sujet d'inquiétude.
Ah, je crois connaître les autres.
Quand le FLN aura pris le pouvoir, il ne le lâchera plus. Il n'épargnera pas les autres mouvements arabes. Du moins, ce qu'il en restera. Déjà, il mène une guerre dans la guerre, contre les musulmans qui ne partagent pas ses positions. Cela me rappelle l'Espagne de 1936, quand en pleine guerre contre le franquisme, les communistes s'employaient à éliminer les autres forces de gauche.
Je n'ai pas peur de condamner les erreurs du FLN, et je ne suis pas le seul.
Les intellectuels intègres comme vous lui servent de caution. Mais après l'indépendance, il n'en aura plus besoin. Souvenez-vous de ce que le FLN a fait à Mélouza. Le village a été décimé, 374 paysans arabes massacrés parce qu'ils étaient soupçonnés de soutenir le MNA de Messali Hadj.
Camus, vous savez que je condamne ça comme vous condamnez les tueries commises par l'armée française. Votre pitié pour ceux qui souffrent est immense, je le sais. Mais la pitié ou l'amour n'ont hélas plus aucun pouvoir sur le mal. Ah, ni vous ni moi n'y pouvons plus rien.
Et sur ce point, je crains que vous ayez raison. Oh, avant de venir, j'ai vu Germaine Tillon.
Mmh.
Vous la connaissez bien, n'est-ce pas?
Ah, une grande résistante. Et son engagement dans les centres sociaux qu'elle a créés en Algérie est admirable. Je suis fier d'y travailler.
Et elle m'a montré des rédactions scolaires d'une trentaine d'élèves. À la question de l'instituteur « Que feriez-vous si vous étiez invisible ?» tous ont répondu qu'ils prendraient des armes pour tuer des Français. C'est à désespérer.
C'est l'état d'esprit qu'a forgé le colonialisme. L'indépendance nous aidera à le changer. Français et Allemands ne se sont-ils pas réconciliés? En tout cas, Albert, quel que soit l'avenir, il nous restera toujours notre amitié. Là est peut-être l'espoir.
L'amitié de Feraoun, mes chers, mais d'espoir, je n'en ai plus. J'aurais mieux fait d'intituler mes chroniques algériennes « Chroniques d'un échec ». Celui de n'avoir pas réussi à désintoxiquer les esprits. Ai-je même bien fait de publier ce livre? Oh, je sais d'avance l'accueil qu'il recevra des deux côtés. Il faut choisir son camp, crient les repus de la haine. Mais mon camp, à moi, était celui d'une Algérie de la justice, où Français et Arabes se seraient associés librement. Mais la politique imbécile de la France a exacerbé une révolte qui a définitivement choisi la voie du sang. Quant aux polémiques, elles n'ont eu d'autres effets que de durcir les intransigeances et de diviser un peu plus une France empoisonnée par la haine. Le camp où l'on pouvait encore garder la tête froide a disparu. Je jette l'éponge.
Les chroniques algériennes paraissent en mai 1958. Alors qu'éclate le putsch d'Alger conduit par les ultras de l'Algérie française, elle ne suscite qu'un faible écho. Comme il l'avait annoncé, Camus ne s'exprimera plus sur le sujet. Pour autant, il ne se résigne pas à l'inaction. Adversaire résolu de la peine capitale, il poursuit ses démarches en faveur de militants algériens condamnés à mort. La même année, il rejoint la campagne pour la reconnaissance de l'objection de conscience initiée par le vieux militant anarchiste Louis Lecoin. Les deux hommes s'étaient rencontrés 10 ans plus tôt autour du soutien à Gary Davis, un ancien pilote de bombardier américain qui avait renvoyé ses papiers à l'ambassade des États-Unis à Paris et s'était déclaré citoyen du monde.
Entrez! Oh, Camus, entrez, entrez! Vous voir me réchauffe le cœur.
Ah, Lecoin, mon ami, vous ne changez pas. Toujours sur la brèche.
Et que voulez-vous? Mais si j'en crois votre réponse à ma lettre, vous y serez bientôt, vous aussi.
Bah, vous connaissez mon attachement à la cause de la légalisation de l'objection de conscience. Non, à l'heure où tant de nos jeunes sont embarqués dans la guerre, je ne vous ferai pas défaut.
Merci, Camus, de soutenir notre campagne. Je n'en doutais pas. Vous faites un peu partie de la famille.
La famille?
Celle des libertaires.
Oh là, gardez-vous de m'enrôler, je déteste ça.
Loin de moi cette idée, mais j'ai lu L'Homme révolté, je connais votre condamnation du totalitarisme, votre soutien à l'Espagne républicaine, votre horreur de la peine de mort. Tous ces combats nous rapprochent. Sans compter que vous n'avez jamais été avare d'articles pour la presse anarchiste.
Vous savez aussi que contrairement à vous, je ne suis pas un pacifiste intégral. Quand vous étiez en prison pour avoir refusé de faire la guerre, j'étais moi dans la résistance.
Et votre soutien à l'objection de conscience n'en a que plus de poids.
Je crois à la conscience individuelle en tant que circonstance. Il m'est insupportable que des jeunes qui suivent la leur croupissent en prison. Au nom de cette même conscience, lorsque j'étais résistant, j'ai toujours désapprouvé l'exécution de prisonniers allemands, comme j'ai désapprouvé certaines actions qui ne pouvaient qu'entraîner la mort de civils innocents.
Camus, votre signature a une importance énorme, mais je vais vous en demander davantage. J'aimerais que vous mettiez à rédiger le projet de statut que nous soumettrons au gouvernement.
Moi ?
Tout dans votre œuvre montre votre attachement à l'humain, au refus des dogmes, à la droiture.
Attention, je vais penser que vous tentez de me flatter.
Alors disons que votre nom et le Nobel qui vous a justement couronné sont des atouts d'autant plus forts qu'ils seront associés à l'écriture même de notre projet.
Vous aviez préparé vos arguments. J'entends celui-ci. Soit, si vous pensez que je serai utile, allons-y.
En pleine guerre d'Algérie, le combat pour la reconnaissance légale de l'objection de conscience connaîtra de nombreux rebondissements. Ce sera aussi le dernier combat d'Albert Camus.
Le projet qu'il a contribué à rédiger sera largement édulcoré par le gouvernement, mais les objecteurs auront un statut. Le 3 janvier 1960, après un séjour dans sa maison de Lourmarin, avec Francine, leurs enfants et le couple Gallimard, il s'apprête à regagner Paris.
Tu es sûr de ne pas vouloir rentrer en train avec nous, Albert ?
Oh, j'aurais préféré vous accompagner, les enfants et toi. Tu le sais, je ne rafale pas des voyages en auto, mais Michel a tellement insisté. Il est tellement fier de sa face Helvega. Et il en parle comme d'une machine extraordinaire. La tenue de route ceci, le moteur cela, moi je n'y connais rien.
Soyez prudent.
Ne t'inquiète pas, Francine. Allez, monte, rejoins les enfants, le train va partir. On se retrouve à Paris.
Albert, tu es prêt ?
Oui.
Et ton cartable, tu veux pas le mettre dans le coffre ?
Non, je le garde avec moi. Il contient le manuscrit du premier homme. Je ne m'en sépare pas.
Ah, et j'ai hâte de le lire. Depuis le temps que tu m'en parles, tu nous le donnes quand ?
Je pense l'avoir terminé d'ici 6 ou 8 mois. Mon voyage en Grèce l'été dernier et mes séjours à Lourmarin m'ont fait un bien fou.
À la bonne heure.
Tu sais, Michel, je crois que jusqu'ici, je n'ai écrit qu'un tiers de mon œuvre. C'est peut-être avec le premier homme que je la commence vraiment.
Voilà de quoi ravir ton éditeur et ami. Il est temps de penser à la campagne de promotion qui annoncera la sortie du nouveau Camus.
Nouveau à double titre. Mon roman est placé sous le signe de la tendresse.
Bigre, c'est un registre dont tu n'uses pas souvent.
Loin des querelles partisanes et des intellectuels qui paradent, je me rends compte que j'éprouve une telle tendresse pour toutes les petites gens au milieu desquelles j'ai grandi. Je veux les raconter, les célébrer. Ceux qu'on nomme les colons ne sont pas tous des exploiteurs et des richards. Les miens sont des gens du peuple. C'est d'eux que je parlerai.
L'Algérie toujours, hein ?
La vie, la fraternité, la solidarité. L'humain, quoi.
Où en sera l'Algérie lorsque nous publierons ton livre ? Tu as entendu le discours de De Gaulle ? Les Algériens vont décider de leur sort par référendum. Ça sent la fin de la guerre. Tu devrais être content.
De ce côté-là, oui, mais je m'inquiète de la suite. Le FLN aux portes du pouvoir ne me rassure pas. Il s'empressera de troquer la colonisation contre l'inféodation à l'Égypte et au panarabisme. Le gouvernement a accumulé autant d'erreurs que de stupidités. Il a fini par fédérer les Algériens autour des plus durs de leur camp. Non, mais parlons d'autre chose.
De ma face Helvega, par exemple. Comment la trouves-tu ?
Bien.
Je plaisante, Albert, je connais ton peu d'intérêt pour les voitures. Non, dis-moi plutôt comment se porte ta mère depuis son intervention chirurgicale. Tu as eu des nouvelles récentes ?
Elle va mieux. Mais quand je l'ai vue à l'hôpital d'Alger, elle m'a fendu le cœur. Elle semblait si fragile, si fataliste. Alors elle passait ses journées à attendre que le temps s'écoule. Pas de lecture, puisqu'elle ne sait pas lire, pas de musique. Sa surdité l'en prive. Elle avait même demandé qu'on baisse les stores parce que la lumière du jour lui blesse les yeux. Elle obéissait à tout, docile. Elle disait bien « Monsieur docteur, merci monsieur docteur », comme une fillette. Ma petite mère, elle était si heureuse de me voir.
Et toi, d'être près d'elle.
Et comment ? J'ai peut-être été maladroit à Stockholm, mais j'ai dit ce que je pense. Une mère, vois-tu, c'est l'humanité. J'ai tout tenté pour la faire venir. Elle aurait été à l'abri ici. Rien à faire. La seule fois où elle a consenti à séjourner à Lourmarin, elle a fini par s'ennuyer de son quartier. Elle m'a dit, navrée, il n'y a pas d'arabe ici. Il lui manquait.
Tu y retournes bientôt à Alger ? Albert,
Tu retournes bien. Oh. C'est endormi.
Quelle douce sensation que l'assoupissement bercé par la route. Un état second où la pensée vagabonde, livrée à elle-même, sans raisonnement. Elle invite des images comme ces films d'amateurs qu'on projette sur un drap. L'Algérie toujours. L'été à Tipaza, les rues de Bellecour, Monsieur Germain dans notre école. Ma mère, silencieuse comme le sont parfois les pauvres écrasés par la vie. Sa tendresse, mijotée en cuisine. C'est bon, Albert. Mon enfance défile sous le ciel d'Alger. Le soleil jaune, les taches rouges du sang, celui de mon père mort en 14, et les éclats de l'obus assassin que l'armée avait envoyé à ma mère. Alger la blanche, tachée du sang rouge des victimes du FLN. Et dans les caves, le même sang rouge des suppliciés par l'armée française. Rouge.
Merde ! Va dans le décor, hein !
1957, Albert Camus, le prix Nobel et la guerre d'Algérie, de Patrick Péchereau, avec Albert Camus, Pierre-François Garel, Francine Camus, Sarah Louis, Michel Gallimard, Lionel Lingelser, l'animateur de la conférence de Stockholm, Noé Castagnier, Saïd Kessal, Adil Laboudi, Mouloud Feraoun, Slimane Niefza, Louis Lecoin, Daniel Berlioux. Bruitage Elodie Fiat, prise de son, montage et mixage Bastien Varigo et Étienne Collin, assistant à la réalisation Pablo Valero, réalisation Sophie Haute-Picon. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Je reprends dans quelques minutes la discussion sur Albert Camus, le prix Nobel et la guerre d'Algérie, avec mon invité Martine Mathieu Job. On écoute d'abord L'inconnu en personne de Bertrand Belin.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie, en ville. Sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent, je les entends faire. Des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a un. Au bord du Nil, il y en a une, dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone, je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans, il y en a une. Quatre vents qui regardent l'horizon. sans solution. Parmi les renoncements, à l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Martine Mathieu Job, Albert Camus donc meurt le 4 janvier 1960 dans cet accident de voiture. Il est enterré dans le Luberon à Lourmarin où il avait une maison, loin donc de sa terre natale. Il n'a pas connu l'indépendance de l'Algérie.
Il n'a même pas connu la fin de la guerre, non,
ben
bien
oui,
sûr.
Ouais, 1962. Oui. Est-ce qu'il avait vu juste sur la politique qui sera menée par le FLN au pouvoir? Des Français pieds noirs chassés,
alors,
les Juifs.
Oui, je pense qu'il avait prévu que...
Il avait senti.
Oui, oui, oui. Et il l'avait dit lors d'une rencontre avec le général de Gaulle, les Français d'Algérie ne resteront pas en Algérie si le FLN prend le pouvoir. Oui, je crois qu'il était très, très alerté par les menées du FLN, qui avaient effectivement évacué tout autre mouvement. Y compris ceux de l'historique Messali Hadj, qui avait été le père de l'éveil de la conscience algérienne, donc l'élimination de tout autre mouvement indépendantiste et la proclamation de l'unicité ou de l'exclusivité de l'arabité, de la religion musulmane dans l'indépendance réclamée, tout cela lui faisait peur, bien sûr. Oui, oui.
En 1958, Camus avait décidé de ne plus parler publiquement de l'Algérie. Pour quelle raison ?
Eh bien, parce que on a parlé justement de l'appel à la trêve civile qui avait été hué et conspué des deux côtés, tant par les ultras de droite que par les gens de gauche qui étaient plutôt soutien du FLN ou en tout cas pro-indépendance pour l'Algérie. Et chaque fois qu'il prenait la parole, il voyait bien qu'au lieu de faire entendre une moyenne voix, une voix en tout cas différente des deux extrêmes, il suscitait plus de haine et de virulence qu'il n'en apaisait. Donc il avait décidé de se taire, pensant justement qu'il n'était pas l'heure pour lui ou qu'il n'était plus l'heure pour lui de parler. Mais il a quand même publié Actuel 3, qui regroupe les chroniques algériennes. Donc tous ses écrits de journaliste, les principales conférences, où ce qu'il estimait justement rendre compte de sa position et de la cohérence de cette position.
Ben, je vous propose justement d'écouter Albert Camus lui-même, qui en 1957, donc à Stockholm, lors d'une conférence de presse, répond à un journaliste sur sa vision d'un avenir politique possible pour l'Algérie.
Je continuerai à croire qu'une communauté franco-musulmane est non seulement possible, mais nécessaire en Algérie. Et cette communauté ne peut être basée, selon moi, que sur une solution de fédéralisme. J'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un fédéralisme territorial, si vous voulez, à la Suisse, car ce fédéralisme est impossible puisque les populations se trouvent étroitement imbriquées, mais qu'il ne peut s'agir que d'un fédéralisme personnel. Je veux dire que chaque communauté, qu'elle soit arabe, française ou berbère, peut être représentée sur des bases d'égalité et de justice à l'intérieur d'une assemblée qui reste à définir. Voilà quelle est ma solution.
Albert Camus, donc, s'exprimant en 1957 à propos de l'Algérie, est-ce que cette vision politique à ce moment-là, qui permettrait donc une cohabitation pacifique entre Algériens et Européens, est-elle encore envisageable en 57, il doit être un des rares à penser encore comme
oui,
ça.
Oui, je crois qu'il il s'obstine à tenir ce discours. Je pense qu'intérieurement, il se fissure déjà un peu. Et en 58, précisément, quand il décide de publier les chroniques algériennes, donc Actuel 3, il écrit à Jean Grenier, avec lequel il entretient une correspondance régulière, hein, qui a été son professeur et
de philosophie
son ami.
Algérie, ouais.
C'est cela. Il écrit que, dans le fond, il est persuadé que l'affaire est fichue. Enfin, je ne sais plus quels sont les termes, mais c'est assez familier. Ouais. Et ça dit cela, il n'y croit plus à cette solution. Et il dit, mais je ne l'écris pas parce qu'on ne publie pas un livre pour dire qu'on n'y croit plus, sinon on se tait. Et donc, je pense qu'il est déjà persuadé que cette solution à laquelle il a beaucoup tenu et qu'il a défendue n'est absolument pas réalisable. Mais cela dit, ce qu'il espérait, je crois, c'est qu'il puisse y avoir quelque chose du maintien de la coexistence des populations qui étaient effectivement divisées dans une société coloniale, mais qui néanmoins avaient créé quelque chose, un début de culture métissée à laquelle il se rattachait. D'ailleurs, dans cette interview dont vous avez publié un extrait, il dit que cette communauté européo-musulmane, elle a déjà été réalisée chez les écrivains. Donc il donne en exemple la communauté des écrivains, et il dit qu'il fait partie des écrivains d'Algérie, au même titre que Jules Roy ou que Emmanuel Robles. Et il cite également, bien sûr, tous les écrivains fondateurs de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature algérienne, c'est-à-dire Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, son grand ami, et puis Mohamed Dib, par exemple. Il dit, nous avons déjà réalisé cela, cette communauté franco-algérienne.
J'aimerais qu'on revienne, Martine Mathieu-Job, sur le dialogue avec Saïd Kessal, donc cet étudiant algérien qui l'a interpellé lors de la conférence de presse à Stockholm. Cette passe d'armes, qui aurait pu totalement anodine et passer inaperçue, est devenue célèbre, bizarrement. Et c'est surtout les derniers mots lâchés par Camus qui répond au tac au tac « si c'est cela votre justice, je lui préfère ma mère ». Peut-être que c'est des mots qu'il a dit un peu comme ça, enfin qui ont une certaine force, mais peut-être que ça lui a un peu échappé. Mais en tout cas, ces mots ont été maintes fois répétés, voire déformés par les détracteurs de Camus. Comment est-ce qu'il faut les interpréter ?
Alors, je crois que le contexte, justement, dans la pièce radiophonique que vous avez diffusée, est assez clairement restitué. Camus évoque les attentats aveugles, c'est-à-dire ce terrorisme qui peut, justement, tuer des gens qui prennent le tram dans Alger,
qui boivent
des civils,
un
qui
verre,
sont,
oui, un café.
Souvent non seulement désarmés, mais comme sa mère, dépourvus de toute conscience politique, qui sont justement ceux qui subissent l'histoire et qui ne la font pas. Comme il le dit dans son discours.
Dans son discours,
voilà. Qui est une
Nobel.
Très très belle phrase. Moi, je suis celui qui est de ce côté-là, dit-il. Donc, il l'avait déjà aussi évoqué dans une pièce comme Les Justes. Il peut approuver un engagement politique qui conduit au terrorisme, à condition qu'il y ait des cibles politiques, des cibles de responsables, qui soient justifiées précisément par un engagement politique. Mais il ne supporte pas que la violence puisse s'exercer de façon aveugle en touchant les civils les plus démunis. Donc, il fait allusion à cela. On ne peut pas dire que cela, c'est la justice. Si vous défendez cette sorte de justice, je préférerais, bien sûr, ma mère à la justice. C'est ça qu'il faut comprendre.
On va lui reprocher, on va lui dire, Camus ne défend pas la justice. C'est ça qu'on
Alors
va lui reprocher.
Alors que toute sa vie, il a défendu la justice, bien entendu. Donc, c'est mal connaître l'œuvre et tous les écrits, toutes les paroles, toutes les prises de parole, publiques, privées de Camus, que de dire il mettait au-dessus de la justice l'amour pour sa mère. Non, sa mère était le symbole de ces petits blancs qui étaient, dans le fond, justement, eux aussi, les victimes d'une histoire dans laquelle ils étaient embarqués et qu'ils ne maîtrisaient pas.
On a dit parfois d'Albert Camus que c'était un écrivain colonialiste. Qu'est-ce que vous en dites,
alors,
Martine Mathieu-Job ?
Colonialiste,
brièvement.
Certainement pas, ni même colonial. Il y a une littérature coloniale qui a été justement assez nourrie en Algérie. Il y a eu des manifestes, il y a eu des écrivains qui ont porté haut cette littérature, comme Louis Bertrand, Robert Rondeau.
C'est des écrivains qui défendaient la colonisation ?
Oui, qui justifiaient la présence française en Algérie. Camus s'est toujours positionné contre. Et à essayer de créer autre chose. D'où ce qu'il dit de cette communauté des écrivains franco-algériens qui, chacun au nom de leur culture et de leur expérience sensible et existentielle, pouvaient apporter quelque chose au dialogue. Donc il n'est pas un écrivain ni colonialiste, ni même colonial. Mais il est l'écrivain de son époque et l'écrivain d'une certaine culture. Malgré son ouverture et sa volonté de dialogue, on peut dire qu'il connaissait mal la communauté et la culture des musulmans d'Algérie.
Merci beaucoup, Martine Mathieu Job, de nous avoir éclairé sur cette histoire. En de vous, on peut lire « Mon cher Albert, lettre à Camus », on voit que vous l'aimez, publié chez Elisa en 2019. À lire également de Mohamed Aissaoui avec Catherine Camus, « Le dictionnaire amoureux d'Albert Camus », chez Plon en 2023. Et bien sûr, il faut lire, relire les œuvres de Camus, disponibles chez Gallimard. Je signale également que Patrick Pechereau, l'auteur de la fiction, a publié en 2024 « À cheval sur le vent » aux éditions Bruno Doucet. C'est la fin pour aujourd'hui de cette émission qui était réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, à la technique Vincent Godard. Vous pouvez vous abonner au podcast d'Autant n'importe l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Dimanche prochain, il n'y aura pas d'Autant n'importe l'histoire, mais la retransmission d'un concert spécial Flavien Berger à l'occasion de la sortie de son nouvel album Plouf Léviathan. Nous nous retrouvons donc dimanche 22 juin pour un Autant n'importe l'histoire consacré à Dora Maar, amante et femme qui pleure de Picasso, mais qui fut bien plus que ça, une grande artiste. Dora Maar, Picasso et Guernica, c'est dimanche 22 juin à 21h sur Inter.